20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est avec Thibaut Noaly, le chef de l'ensemble Les Accents, que nous passerons un moment ce soir pour parler de ce rare et fascinant oratorio de Scarlatti qu'il vient de nous révéler au disque et pour parler de ses prochains rendez-vous sur scène. Avant cela, nous nous intéresserons à quelques autres événements de l'actualité musicale. Une actualité marquée par deux tristes nouvelles, deux disparitions. Celle de la soprano canadienne Erin Wall, survenue à l'âge de seulement 44 ans, des suites d'un cancer. Erin Wall, une chanteuse que l'on avait pu découvrir en France en 2005 dans la fameuse production du Così fan tutte, mise en scène par Patrice Chéreau au Festival d'Aix-en-Provence. Elle devait encore se produire en France en décembre prochain à la Philharmonie de Paris. Erin Wall avait raconté son combat contre le cancer l'année dernière dans un bouleversant témoignage. Et puis nous avons appris hier également la disparition de la soprano américaine Ruth Falcon à l'âge de 77 ans. Une chanteuse qui, elle aussi, a laissé de grands souvenirs en France dans les années 80, que ce soit au Festival d'Aix-en-Provence ou à l'Opéra de Paris. C'est au Metropolitan Opera de New York qu'elle s'est également surtout exprimée jusqu'au milieu des années 90 dans des productions mémorables, notamment une production d'Electra ou encore un Turandot. S'adapter plutôt que d'annuler, le théâtre du Capitole de Toulouse a réussi à sauver les dernières représentations de son Così fan tutte menacé suite à la détection de cas de Covid au sein de l'orchestre. C'est ainsi que vendredi soir, la chef Speranza Scapucci et le chef de chant Robert Gonel ont relevé le défi de donner le spectacle sans orchestre, mais avec un accompagnement musical au piano forte et au piano. Et pour la dernière représentation, celle de dimanche, ils ont réussi à monter une version inédite pour cordes, timbales, tambours et piano forte. Le public leur a réservé à cette occasion une ovation bien méritée. Philippe Gau vous raconte cela dans son article publié sur le site de Radio Classique. La saison piano à Lyon reprend cette semaine avec quelques beaux rendez-vous en perspective. C'est la pianiste Anne Kefelec qui en donnera le coup d'envoi mercredi soir, salle Molière. Un récital qui sera même doublé puisqu'elle jouera à 17h puis à 20h30. Au programme, Mozart et Beethoven, les deux dernières sonates de Beethoven même. Un récital qui s'annonce donc particulièrement intense. Et puis en novembre, le 25 novembre très exactement, Gauthier Capuçon et Jérôme Ducrot viendront de salle Molière présenter un programme très éclectique allant d'Albinoni à Debussy, programme placé sous le signe de l'émotion. C'est le programme du tout nouvel album de Gauthier Capuçon qui sortira prochainement chez Erato.
Laure Maison sur Radio Classique.
Et c'est mercredi que débute la nouvelle édition du festival Ton Voisin à Albi, un festival dirigé par Denis Pascal qui accueillera pendant 3 jours quelques brillants musiciens. Mathilde Calderini, Adam Laloum, Nathanaël Gouin, Lia Petrova, David Guerrier, mais aussi la famille Pascal au complet, le père Denis et les deux fils, Alexandre le violoniste et Aurélien le violoncelliste. Ils célébreront Beethoven, mais aussi le romantisme allemand, des musiques de Brahms, Schumann, Wagner ou encore Strauss ponctueront ces différents concerts. Rendez-vous donc du 14 au 17 octobre à Albi. Et tout de suite, deux membres de la famille Pascal, Denis et Aurélien, en compagnie du violoniste Svetlin Roussef, nous offrent quelques notes de Ravel.
Thank you.
Un extrait du trio de Ravel avec Denis Pascal au piano, Zlatine Rousseff au violon et Aurélien Pascal au violoncelle. Denis et Aurélien Pascal qui se retrouveront donc à Albi dès mercredi pour la nouvelle édition du festival Ton Voisin qui se tiendra jusqu'au 17 octobre.
Le journal du classique sur Radio Classique.
Notre invité ce soir, le violoniste et chef Thibaut Noaly, avec qui nous allons découvrir un merveilleux oratorio de Scarlatti, qui a fait l'objet d'un récent enregistrement chez Aparté. Nous évoquerons également son actualité de concert, qui vient d'être perturbée par l'annulation du Bourgeois Gentilhomme à l'Opéra Comique. Thibaut Noaly devait en effet diriger plusieurs représentations en alternance avec Marc Minkowski. Mais le Covid a eu raison de cette production. Un coup dur pour toute une équipe artistique qui s'était tant investie dans le projet depuis plus d'un an, comme Thibaut Noaly me l'a confié.
Il y a à la fois, bien sûr, la déception et puis une certaine tristesse qui s'installe parce que c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup d'habitude de faire des productions de théâtre comme ça. Et ce que je trouve extraordinairement important et beau dans ce projet avec Jérôme Deschamps, c'est qu'il y a un esprit de troupe, vraiment de théâtre et de gens qui sont tellement heureux de se retrouver à chaque fois et de faire ce projet que c'est d'autant plus frustrant quand tout tombe à l'eau comme ça à la dernière minute.
Mais cette production, elle sera redonnée. Elle est prévue pour le mois de décembre.
Oui, alors il y a des reprises qui sont prévues.
À Lyon.
Oui, il y a Lyon et il y a aussi Caen. On a d'autres périodes en perspective,
donc
heureusement.
On va croiser les doigts pour...
Voilà, exactement, il faut croiser les doigts.
Alors, cette production, c'était avec les musiciens du Louvre que vous deviez diriger en partie, en alternance avec Marc Minkowski. Vous êtes également, Thibaut Noaly, le fondateur et le chef de ce jeune ensemble, Les Accents. Un ensemble, j'imagine, fragilisé, comme tous les ensembles indépendants en ce moment. Est-ce que vous avez des perspectives, tout de même, de l'espoir ?
Des perspectives, oui, parce que on a quand même des projets là qui se planifient pour les saisons à venir, donc c'est déjà quelque chose d'assez positif. Après, c'est vrai qu'on a aussi subi, comme tout le monde, toutes ces annulations depuis le mois de mars et tous ces projets qui tombent aussi à l'eau, qu'on essaye de recaler quand on peut, et c'est pas toujours possible. Il faut vivre avec cette envie de continuer et de toujours réaliser des projets nouveaux, et en même temps cette frustration qu'on n'aboutisse pas tout de suite. Il faut savoir garder courage et patience aussi, c'est important dans ce métier.
Che pena dolorosa da senza ciò, pescaltro in amore, pescaltro in amore, con alma sdegnosa gli affetti ingannò. Alma sdegnosa gli affetti ingannò. Un lieto quel cuore, un lieto quel cuore che ben amorosa da sé riscattò. Oh, 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 che ben amorosa da sé riscattò. E sempre dolente viola un volto la sua libertà. Viola un volto la sua libertà, e in vanno si pente, e in vanno si pente d'amar quando il volto nei lati poi sta. Quando il volto nei lati poi sta, e sempre dolente, e sempre dolente, chi dona ad un volto la sua libertà. Chi dona ad un volto la sua libertà.
Yeah. Votre actualité, Thibaut Noaly, avec les accents, c'est cet enregistrement d'un oratorio de Scarlatti, Il Martirio di Santa Teodosia, une œuvre que l'on découvre grâce à vous, avec une merveilleuse distribution, notamment Emiliano González Toro, que l'on écoutait ici dans l'air au Lieto Quel Core. C'est un oratorio totalement inconnu. Comment êtes-vous tombé sur cette partition? C'est que vous êtes curieux, que vous aimez fréquenter les bibliothèques et que vous aimez explorer la musique de Scarlatti. Donc vous étiez déjà intéressé au personnage Alessandro, hein, Scarlatti.
Alessandro. Oui, c'est vrai que depuis quelques années, je fais beaucoup de recherches dans les bibliothèques et j'avais déjà une connaissance assez poussée de toute l'œuvre d'oratorio de Scarlatti. Parce qu'il nous reste aujourd'hui une vingtaine d'oratorio de Scarlatti qui nous sont parvenus. Je connaissais quasiment déjà toutes les partitions, toutes les sources, et j'avais envie de commencer ce cycle, un cycle d'oratorio. Et j'ai eu la chance de pouvoir convaincre Julien Caron du Festival de la Chaise Dieu de commencer ce cycle. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé face à cette bonne nouvelle et cette envie qu'ils avaient de m'accompagner dans ce choix, je me suis demandé avec quelle œuvre commencer. Et je connaissais quand même bien cette partition, et c'est vrai que c'est un des premiers oratorios qu'on connaisse de Scarlatti. C'est vraiment, il est vraiment très jeune, il a que 23 ans, il vient d'arriver à Rome. Un de mes amis, Xavier Carrère, qui est aussi producteur, qui connaît très bien l'œuvre de Scarlatti, m'a dit, mais commence par le Martirio, tu vas voir, c'est une œuvre sublime et en même temps une œuvre vraiment de jeunesse. C'est vrai qu'il avait raison, cette œuvre est exceptionnelle.
Mais on sait peu de choses sur la genèse de cette œuvre, de cet oratorio. On sait qu'il a été composé vraisemblablement en 1683 à Rome. Il y a encore beaucoup de mystères, oui. Ne serait-ce que par rapport à l'événement pour lequel l'œuvre était dessinée.
On n'a pas vraiment effectivement de certitude sur la création. Il y a beaucoup de sources de cet oratorio dans plusieurs bibliothèques européennes et même américaines. Je crois qu'il y a entre 5 et 6 sources différentes. Ce qui montre quand même que cet oratorio a quand même été largement diffusé et qu'il a connu pas mal de reprises. Ce qui est à l'époque est quand même assez rare, parce que à cette époque-là, en Italie, on est quand même toujours friand de musique nouvelle, hein. On réutilise rarement de la musique déjà jouée.
Ce qui veut dire que l'œuvre était aimée du public.
Exactement. Hein. Elle a sûrement eu un grand succès, et la source la plus ancienne qu'on connaisse, elle date de 1684, et elle est pour Modène, pour une reprise à Modène, et dans les archives de Modène, on sait que cet oratorio est désigné comme un oratorio qui vient de Rome. Comme Scarlatti était très proche du cercle de Christine de Suède, cette fameuse reine très emblématique qui était en exil à Rome et qui avait quitté la Suède et qui s'était convertie au catholicisme et qui adorait la musique, on pense en fait que Scarlatti a dû la composer en fait pour Christine de Suède, pour un événement en tout cas lié à Christine de Suède.
Et alors, que sait-on sur cette Santa Teodosia, une sainte peu connue d'ailleurs du calendrier, oui, dont la vie, j'imagine, est assez romancée, hein, dans cet oratorio.
Tout à fait. Dans ce livret de Scarlatti, il y a une sorte de romance d'amour contrarié qui est décrit, qui n'a pas du tout de source historique. Hein. Tout ce qu'on sait de Sainte Théodosie, c'est Sainte Théodosie de Tyr, donc une région qui correspond aujourd'hui au Liban. On sait qu'elle a été martyrisée à un très jeune âge pour avoir secouru des prisonniers qui étaient chrétiens. Et elle est souvent représentée dans les icônes avec des pierres dans la main. Parce qu'un des premiers supplices qu'elle a subi, c'est d'être jetée à la mer. Et en fait, elle ne s'est pas noyée, parce qu'on l'avait lestée de pierres. Et elle est revenue sur le rivage et on dit qu'elle s'est représentée au gouverneur qui l'avait condamnée avec les pierres dans la main.
Alors, Sainte Théodosie est incarnée dans cet enregistrement par Emmanuel de Negri, dans votre enregistrement, Thibaut Noaly, avec l'ensemble Les Accents. Emmanuel de Negri, qui est époustouflante dans cette œuvre, une œuvre particulièrement exigeante, notamment pour ce personnage de Théodosie qui a énormément d'air et des airs d'une virtuosité extraordinaire.
Oui, alors justement, pour moi, c'était très compliqué au départ. J'avais une évidence à faire cette œuvre. Après, il fallait trouver les chanteurs. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà collaboré avec Emmanuel avec plusieurs reprises. Et j'ai tout de suite pensé à elle pour déjà le côté dramatique et l'aspect expressif, parce que elle incarne magnifiquement cette héroïne. Et puis, c'est vrai que le côté athlétique du chant, on sait que Scarlatti, et notamment pour le cercle de Christine de Suède, il avait quand même autour de lui des chanteurs exceptionnels, et notamment la première génération des grands castrats romains, qui avaient des moyens vocaux vertigineux, et puis surtout un contrôle du souffle et de la virtuosité. On le voit dans les airs, quand il y a des coloratours qui n'en finissent pas, enfin, il y a un côté presque athlétique, presque dans le chant.
Vincerà, vincerà, vincerà.
C'est dans l'air Allarmi o Costanza, un air de Théodosia que l'on écoutait ici, Emmanuel De Negri, un extrait de cet enregistrement, l'enregistrement de cet oratorio de Scarlatti que vous avez réalisé, Thibaut Noaly, avec votre ensemble Les Accents, un enregistrement publié il y a quelques semaines, quelques mois, chez Aparté. On écoutait un air absolument époustouflant sur le plan virtuose. Il faut dire aussi que Théodosia a dans cette œuvre des airs beaucoup plus méditatifs, d'une grande expressivité, d'une grande profondeur, et un air sublime à la fin, notamment.
C'est-à-dire que c'est une héroïne qui est quand même dans le combat pendant la plupart de l'œuvre, parce que donc elle résiste aux avances du fils du gouverneur, et puis elle résiste aussi au gouverneur en affirmant sa foi. Donc elle est quand même assez longtemps dans le combat. Et puis forcément, quand on en arrive à l'épisode du martyr et de la mort, il y a ces airs, ces fameux lamenti, ouais, qui se succèdent et qui sont
à vous tirer des larmes. Voilà, digne des airs de Handel, je
trouve. Tout à fait. Et on pense d'ailleurs que Handel a eu connaissance, peut-être pas de toutes les œuvres, mais enfin il connaissait tout à fait de la musique de Scarlatti. Quand il était en Italie, il avait eu connaissance de certaines de ses œuvres, et je pense que ça l'a forcément influencé.
Mais on retrouve cette même émotion que l'on retrouve dans les opéras de Handel, dans ses derniers airs de Théodosia. Une œuvre que l'on découvre, une partition à laquelle vous avez redonné vie, Thibaut Noaly. Est-ce, j'imagine, particulièrement grisant d'enregistrer une œuvre dont personne n'a aucune référence? On est libre, en même temps on sent une certaine responsabilité, puisqu'on va en apporter un modèle, une référence.
Oui. C'est exactement ça, il y a les deux aspects. Alors c'est vrai que cette œuvre, elle n'est pas totalement non plus inconnue, parce qu'il existe un enregistrement, un seul, mais qui date vraiment des années 60. C'est une époque où encore la musique baroque était jouée dans une esthétique très,
très romantique.
Très romantique. Donc c'est vrai que c'était pas une vraie base vraiment pour se faire une idée de l'œuvre. Ce qui est passionnant, c'est d'avoir cette liberté de se dire que voilà, on a juste le texte pour partir et bâtir une interprétation. Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de tradition, on est libre de ça. Après, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a cette responsabilité de se dire, est-ce que ce qu'on va avoir à dire va être convaincant, va avoir un sens, enfin voilà.
Mais en tout cas, c'est particulièrement convaincant, vu l'accueil réservé à cet enregistrement. Vous avez déjà un autre oratorio en préparation de Scarlatti, Thibaut Noaly?
Alors, effectivement, on a donc donné cet oratorio en août 2019 au Festival de la Chaise-Dieu. Et l'été dernier, nous étions censés continuer ce cycle avec un autre titre de Scarlatti, justement un oratorio un peu plus tardif que celui-là, et qui est un oratorio très très différent dans la musique et dans le texte et dans l'atmosphère générale, qui s'appelle San Filippo Neri, qui est donc consacré à un saint italien qu'on connaît peu en France, San Filippo Neri, mais qui est le fondateur de l'ordre des oratoriens. C'est aussi finalement à lui qu'on doit peut-être le concept d'oratorio, finalement. Et en fait, voilà, avec la crise sanitaire, nous avons donc été contraints d'annuler ce concert, mais il est reporté à 2021.
Ben on le découvrira à ce moment-là. D'ici là, d'autres concerts à venir, bien maintenus avec l'ensemble Les Accents, notamment un grand rendez-vous le 17 octobre, où vous serez en concert avec vos musiciens, Thibaut Noaly, et avec Emmanuel De Negri, concert d'ouverture d'un festival dont vous êtes le directeur artistique, Festival de Semur-en-Auxois.
Oui, le Festival Ouverture de Semur-en-Auxois, qui est dédié au répertoire français, pour le coup. Et donc, avec Emmanuel, on va avoir le bonheur de faire un concert autour de cantates baroques de compositeurs extraordinaires comme Rameau, Jacquet de la Guerre, Colin de Blamont, enfin voilà, un vrai programme français baroque. Et le lendemain, on aura un deuxième concert pour ce festival qui sera consacré à la musique française romantique, pour le coup, mais joué sur instrument d'époque, sur instrument romantique, par Paolo Zanzu et son ensemble Estagioni, avec le trio de Forêt et le trio de Chausson.
D'autres rendez-vous avec Les Accents le 1er novembre, concert de musique instrumentale en petit effectif, dans le cadre du festival baroque du Jura. Vous jouerez des musiques de Rebelle et de Leclerc. Le 6 décembre, un programme de motets italiens avec Blandine Staszkiewicz et Antea Pichanik, et ce sera à Neuilly-sur-Seine. Et puis également, au mois de novembre, vous retrouverez les musiciens du Louvre, Thibaut Noilly, pour Mithridate au Staatsoper de Berlin. On va croiser les doigts pour que tout se passe bien, parce que les productions lyriques, c'est ce qu'il y a de plus difficile.
C'est très fragile en ce moment. C'est vrai qu'une production avec une mise en scène, où les gens ne sont pas masqués, où il y a un contact proche, et puis les questions de voyage qui sont très compliquées en ce moment aussi. Donc.
Ces reprises du Bourgeois Gentilhomme que l'on évoquait avec les musiciens du Louvre au Théâtre de Caen et à Lyon, et puis d'autres rendez-vous à la rentrée importants, notamment au Théâtre des Champs-Élysées.
Oui, avec un grand gala autour de Händel et ses contemporains, puis les chanteurs qui ont aussi inspiré Händel. Et j'ai la chance d'avoir une distribution prestigieuse, puisque nous aurons Patricia Cioffi, Léa Desandré et Antea Pichanik.
Voilà, ce sera le 6 avril. On peut déjà réserver nos places sur le site du Théâtre des Champs-Élysées. D'autres concerts à venir et un autre enregistrement sorti tout récemment qui nous permet de vous retrouver, Thibaut Noilly, dans un autre répertoire aux côtés de vos partenaires du Quintet Syntonia autour de la musique d'Olivier Greff, puisque vous ne défendez pas que le répertoire ancien, vous avez besoin aussi de vous exprimer dans des répertoires beaucoup plus récents comme la musique de Greff, musique toute récente du XXe siècle.
Tout à fait, ouais, c'est ça aussi la beauté d'être un interprète, c'est aussi de passer d'une époque à l'autre. C'est vrai que chaque période apporte son lot de beauté, de bonheur et d'intérêts divers aussi. Donc, avec le Quintet Syntonia, on a beaucoup défendu la musique d'Olivier Greff. C'est notre 4e disque de musique de Greff. Et là, on a enregistré son quintet, son unique quintet avec piano, qui est une œuvre très, très imposante, très intense, qui s'appelle The Tale of the World. Donc, une sorte de conte de l'histoire du monde. Et c'est une œuvre très riche, qui mêle des aspects culturels de pays très différents. Et c'est un vrai gageur pour nous, les interprète, parce qu'on doit à la fois jouer, mais on doit chanter, on doit parler, lire des textes. Enfin, c'est une œuvre vraiment très complète.
Voilà donc un nouvel enregistrement avec ce quintet d'Olivier Greff, avec l'ensemble Syntonia, et puis cet oratorio de Scarlatti, Il Martirio di Santa Teodosia. Ce merveilleux enregistrement, on va se quitter avec le final de cet oratorio. C'est l'occasion d'entendre les solistes un magnifique tutti. Hein. Oui. Très impressionnant d'ailleurs.
Oui, c'est un chœur dans lequel les quatre personnages, enfin les quatre solistes, donne une sorte de morale à l'action, et il y a une fugue absolument extraordinaire à quatre voix. Enfin, c'est un des sommets de l'œuvre.
Voilà, et on va se quitter sur cette fugue. Merci beaucoup, Thibaut Noilly.
Merci, Laure.
Final de l'oratorio Il Martirio di Santa Teodosia d'Alessandro Scarlatti avec Emmanuel De Negri, Emiliano Gonzalez Toro, Renato Dolcini, Antea Pichani et l'ensemble Les Accents dirigé par Thibaut Noilly, un enregistrement sorti tout récemment chez Aparté.
L'Ormaison sur Radio Classique.
Et je vous propose de refermer ce journal du classique avec une autre publication discographique, toute récente, toute fraîche. C'est le nouvel album de Bertrand Chamaillou, sorti vendredi. Un programme envoûtant, placé sous le signe de berceuse. Un programme empreint de tendresse, de douceur, mais aussi de cette touche inquiétante et mystérieuse que l'on associe à la nuit, ou plutôt à cette étape si particulière qui précède le sommeil, qui nous fait passer du réel à l'inconscient. Bertrand Chamaillou a réuni des pages pour certaines fort célèbres, mais aussi quelques raretés, comme cette berceuse de Liapounov. Une berceuse de Liapounov qui figure au programme de ce sublime album intitulé Good Night de Bertrand Chamaillou, un album qui vient tout juste de paraître chez Aparté et dont Bertrand Chamaillou viendra nous parler dans quelques jours, mercredi de la semaine prochaine, dans le journal du classique. Voilà, un grand merci à Robin Rieuvernet qui réalisait ce journal ce soir. Demain, la guitare sera à l'honneur puisque nous serons en compagnie de Thibaut Garcia. Très belle soirée, une soirée que je vous invite bien entendu à prolonger.